Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Suzanne est la fille d'un chauffeur de taxi londonien, un de ces beaux black cabs qui circulent encore aujourd'hui dans la capitale anglaise. Son père parle avec ce qu'on appelle un accent cockney, c'est-à-dire l'accent des ouvriers des faubourgs de Londres, les East Enders. Au Royaume-Uni, il suffit de prononcer une phrase et à votre accent, on saura tout de suite à quelle classe sociale vous appartenez, parfois dans quelle public school vous êtes allé et même dans quelle université si vous avez fait des études supérieures. Alors le père de Suzanne, voulant le mieux pour sa fille, par ailleurs très brillante, se met en tête, dès son plus jeune âge, de lui faire perdre cet accent de classe. Il lui paie donc à grands frais des cours de diction, dans lesquels on lui apprend à parler avec l'accent de la reine et de la BBC, une prononciation qu'on appelle RP, Received Pronunciation, prononciation officielle, dans laquelle l'allongement de certaines voyelles, par exemple, est tout à fait recommandé. Rapidement, Suzanne parle avec l'accent des classes supérieures. Elle dit « my gosh » avec le nez en l'air, comme dans Astérix. Après le lycée, elle intègre la fameuse université de Cambridge où elle se fait des tas d'amis, dont aucun ne peut deviner que son père est chauffeur de taxi. Avec le temps pourtant, Suzanne se sent de plus en plus mal à l'aise de ne pas parler comme le reste de sa famille, d'être coupée de ses racines. Elle a l'impression de vivre une espèce de schizophrénie linguistique et sociale. Décevant tous les rêves de son père, à la fin de ses études, Suzanne ne devient ni professeur, ni avocate, ni médecin, même pas journaliste. Elle écrit un peu de poésie et repeint maintenant des appartements pour gagner sa vie, tout en buvant un peu trop de pintes dans les pubs. En France, nous n'en sommes pas encore là, mais pas loin. L'accent des banlieues, qui recoupe aussi des données géographiques, est aussi discriminant que l'accent cockney. Dans un atelier de préparation au concours de Sciences Po, au lycée Eugène Delacroix de Drancy, enregistré par Leïla Djikli pour LSD, on se souvient de cette enseignante qui attire l'attention des candidats sur la manière dont ils prononcent les D ou les T. D'après elle, le T et surtout le D mouillé des banlieues donnent des indications sur l'histoire des jeunes, sur les lieux où ils vivent, leur milieu social. Elle ne leur demande pas de le corriger, mais d'en être conscient, comme nous autres Parisiens devrions être conscients que nous avons un accent parigot. Avec ou sans accent donc, sexy, discriminant, chantant, à couper au couteau, accent du Nord ou du Midi, ou accent de classe, aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, vous l'aurez compris, ce sont des petites histoires d'accent par Lucia Sanchez qui s'y connaît.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Thérèse, je suis née à Belfort. Ma région, c'est une toute petite partie de la Franche-Comté, ma région personnelle. C'est le pays de Montbéliard. L'accent franc-comtois, il y a des points de repère, c'est les E. Alors les E sont alternativement soit très ouvert, on dit des pneus, on dit des cheveux, on ne dit pas des cheveux, ou complètement fermé et long, comme les jeûnes. Et c'est pas un jeûne, je ne mange pas, c'est les jeunes ont encore fait des sornettes la nuit dernière avec leur mobilette. Voilà. Quand j'étais petite, jusque vers mes 5-6 ans, mes grands-parents avaient une usine de décolletage pour les rayons de vélo Peugeot. Et moi, mon grand bonheur, c'était d'aller à l'atelier. Ils s'adressaient à moi en m'appelant Tété, en me demandant si j'étais bien à trier mes rayons avec l'accent. Mais je ne m'en rendais pas compte du tout, donc ça donnait à peu près « Alors, tu viens travailler, Tété ?» ou quelque chose d'approchant. C'était, pour moi, c'était considérable et extraordinaire. Quand je ne suis plus allée en Franche-Comté que pour les vacances scolaires et que le reste du temps j'étais en immersion en région parisienne, j'ai mis des accents devant les noms de qui que ce soit. Jamais, ça ne m'est pas venu à l'idée. C'était à usage uniquement local. À peine déracinée, une fois passée, je ne sais pas, ça devait se faire dans le train de façon, parce que le train était quand même un après-midi à l'époque, hein, ça faisait 4h30 le trajet. Je pense qu'une fois passée Vesoul, c'était la frontière. Comme dans Nosferatu, quand on passe de le petit pont de chez les vampires, on passe du négatif au positif. Et ben voilà, on passait de positif à négatif quand on savait être Franche-Comté. Et on n'utilisait plus. D'abord parce qu'on n'avait pas les bons interlocuteurs. C'était un usage local. Un usage qui était intermittent. Et c'est comme l'électricité, c'était allumé ou éteint. J'ai passé toute mon enfance, toute ma scolarité, sans me rendre compte, sans que personne, ni de mes amis, ni de mes profs, ne me parle d'un quelconque accent. Et donc, j'en étais pas consciente non plus. Puis, j'ai voulu revenir à l'éducation nationale. Là, cette fois, c'était en maternelle et primaire que je postulais. J'y suis entrée sans difficulté. J'ai eu le concours interne sans problème. Donc, on m'a entendue à l'oral, personne n'a jamais rien dit. Et ça, c'était la partie théorique. Il y a eu la partie pratique. Et donc, j'avais une maître formateur. Et un jour, elle m'a demandé de venir prendre sa classe de petite section. C'était à Levallois. J'y suis arrivée, je devais faire une grande séquence de langage de 20 minutes, une demi-heure en petite section, c'est très long. Bon, la demi-heure se passe, je leur raconte l'histoire presque en vieux français, on arrive au bout, ils m'écoutent et je dis à la dame une fois qu'ils sont partis en récréation que ça s'est plutôt bien passé, que je suis bien soulagée et bien contente et elle me dit « Oh mais de toute façon avec votre accent, on vous prendra jamais. » Et là, je me suis rendu compte que j'avais l'accent franc-comtois. Bon, et c'est là que j'ai tout revu à l'envers en me disant « Mais on a un accent, mais c'est une richesse. » Mais bon, je l'ai eu, hein, la partie pratique, je l'ai eu. J'ai fait 12 ans, je suis devenue institutrice. Et puis, l'année suivante, j'ai eu des petites sections dans le 14e. Et je me suis rendu compte, vers la fin de l'année, en les écoutant jouer en récréation, qu'en fait, j'avais beaucoup plus l'accent à cette époque-là, et ils l'avaient pris. Parce que c'est des éponges. Et mes petits parlaient dans la cour en disant, tu vas voir, on avait des pneus pour jouer. Donc, ils jouaient avec des pneus. Et je disais, attention, ne fais pas une pyramide de plus de 3 pneus parce que c'est trop haut et dangereux. Et ils disaient comme ça, ils disaient des cheveux. Enfin, ils parlaient franc-comtois. Ils avaient une bonne partie de leur vocabulaire mais vraiment marqué l'accent franc-comtois. Et elle m'avait quand même bien secoué, la sorcière, parce que je me suis dit en juin, en les laissant partir, en les voyant s'envoler pour les grandes vacances, je me suis dit quand même, peut-être que c'est embêtant pour eux, et j'avais scrupule, j'étais ennuyée. Et je suis revenue dans cette école pour voir des collègues, puisque j'avais été mutée ailleurs. Je suis revenue dans cette école un peu pour vérifier. Et en fait, en septembre suivant, 8 jours après la rentrée, mais il avait suffi des vacances pour qu'ils le perdent complètement. C'était vraiment un vernis. Je pense qu'il y avait le côté chantant de cet accent, les voyelles traînantes. Je pense que j'ai entendu la mélodie dans mes petits à moi, parce que en récréation, c'était très impressionnant, parce qu'on était mélangés à d'autres classes avec des maîtresses normales, entre guillemets. Et les miens chantaient quand ils parlaient. Pas tous, mais enfin une bonne partie de mes petits avaient cette espèce de mélodie commune. Et je lui en veux maintenant, rétrospectivement, à cette femme de pas m'avoir fait découvrir ça comme une allégresse, parce qu'en fait cette unité que représente l'accent pour les franc-comtois de souche dans mon pays d'origine géographique, là en région parisienne dans le 14e dans une petite cour d'école rue Jacquet, je l'avais avec mes petits au milieu d'autres enfants qui eux n'avaient pas parlé franc-comtois pendant leur année scolaire. C'était une richesse commune, c'était un supplément de bonheur. Et c'est un enrichissement et un enchantement, et ça me promène, et ça me réconforte, et ça me réveille mes racines quelque part. Et il y a une universalité de ces paroles chantantes qui est infiniment précieuse par rapport à la platitude d'une langue stérilisée.
Je m'appelle Greg et je suis né à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Je suis né en 71, donc j'ai grandi, j'ai fait toute ma scolarité en Seine-Saint-Denis. Et on était avec les copains, on avait une façon de parler, on avait un accent, sauf que au départ, on ne le savait pas. On était entre nous tout le temps, un peu comme dans le film La Haine, voilà, de Kassovitz. C'était un peu tout ça, beaucoup de verlan, quoi. C'était la bande de potes, les keufs, Ziva, vas-y, bouge, casse-toi. Bon, pas mal, bien sûr, de gros mots. Ça, c'était assez fréquent. Au lycée, c'est un peu la première fois qu'on a commencé à nous reprendre. Donc, bon, j'ai fait seconde, première. Et en première, bien évidemment, il y a le passage du bac français. Et là, la prof de l'époque... a commencé à nous sensibiliser au fait qu'on avait un accent et qu'on nous reconnaissait, mais facilement, quoi. Donc, bien évidemment, elle a commencé à nous dire, bon, les gars, va falloir faire attention à comment vous allez parler, particulièrement à l'oral, qui fait parce que c'est, bon, bah, vous passez l'oral de français, vous pouvez pas vous permettre d'employer des mots familiers et surtout de faire très, très attention à votre accent. Vous devez essayer de parler la manière la plus neutre possible. On se rendait bien compte, après, voilà, aussi dans les médias, dans les trucs, il y avait des sketchs, je me rappelle du sketch des Inconnus, sur « Vas-y, Manu, qu'est-ce que tu fais ? Tu descends ?» Enfin, voilà, des caricatures. Ça permettait aussi aux autres gens de se moquer voilà, de l'accent de banlieue, des gens de banlieue. Voilà. J'ai eu mon bac en 89. Et donc, nous, en 89, on avait encore le choix de pouvoir aller où est-ce qu'on voulait. Et donc, moi, on était, je sais pas, on était 35 dans ma classe. On a 6-7 qui n'ont pas eu le bac. Et puis, bah, tous les autres qui sont restés, je suis le seul à être allé en fac à Paris. Donc, j'ai fait une fac d'histoire à Paris 1, à la Sorbonne. Et là, j'ai bien eu la première forte impression d'être un mec de banlieue, parce que là, du coup, on se retrouvait. Je suis arrivé, voilà, dans un nouvel univers. J'ai rencontré des nouvelles personnes, et on n'était pas si nombreux que ça à venir de banlieue. Il y avait quand même une grosse majorité de Parisiens. Et là, par contre, j'ai bien remarqué que j'avais un accent, que les gens le remarquaient tout de suite, que tout de suite, dès qu'on commençait à parler, les gens un peu plaisantaient là-dessus, du genre « Ah ouais, tu viens de Seine-Saint-Denis », c'était, voilà, on était un peu les lascars, la racaille, quoi. L'accent, c'est aussi, c'est un laisser-aller, je pense, c'est-à-dire que quand on est entre potes, qu'on n'a pas besoin de faire attention, voilà, il y a un langage qui se met en place, il y a des expressions... Moi, voilà, je me suis pas caché. Du coup, c'est vrai que j'avais deux groupes d'amis. Quand j'étais à Paris, j'étais avec mes potes parisiens, mais j'étais un mec de banlieue à Paris. Et puis, quand j'étais en banlieue, j'étais un mec de banlieue avec mes potes de banlieue. Donc, il y a 25 ans, j'ai eu l'occasion de rentrer dans un gros magasin qui vendait des disques, qui était à Châtelet-Léal. Donc voilà, j'avais des potes qui bossaient là-dedans et je suis rentré d'abord pour 15 jours au mois d'août, je me souviens, pour remplacer. Donc j'avais 25 berges et puis en fait je suis resté 7 ans. Et donc, il se trouve que j'étais donc vendeur de disques et je me suis occupé du rayon soul funk et rap américain. Et le fait que ce soit un mec de banlieue qui travaille à Châtelet-Les-Halles, donc dans un coin où toutes les banlieues se retrouvent, et puis que je m'occupe du rap américain, bah là, pour le coup, ça les arrangeait même bien. Pour eux, c'était le meilleur des deux mondes, un mec de banlieue mais qui bosse bien, donc on fait fi des préjugés. Ouais, il est bien le petit gars, comme il devait penser à l'époque. Un des premiers responsables que j'ai eu à l'époque, avec qui d'ailleurs j'étais... s'entendait plutôt pas mal, et puis bon, bah, un jour, dans une discussion, il me dit, écoute, Greg, il me dit, voilà, je veux pas te vexer, ne le prends pas mal, mais voilà, je voudrais te parler un petit peu de ton accent de banlieue. Il fait, c'est bien quand tu parles, que t'as des mecs qui viennent chercher des disques de rap américains. Il fait, là, c'est super. Il fait, maintenant, quand c'est une mamie qui vient chercher, à Noël, des disques pour ses enfants, il dit, bah, ça peut te desservir, et toi, et du coup, l'image du magasin. C'est-à-dire qu'ils assimilent ça à un truc un peu malhonnête. Quand le responsable te dit ça, ouais, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce que d'un côté, on a envie de pas jouer un rôle, de pouvoir continuer à parler comme on a envie de parler, d'être comme on est. Et là, en plus, ça veut dire qu'il faut faire attention constamment à sa manière de parler. Il y a des gens qui vous reprendront toujours sur la façon de parler, justement. Effectivement, comme s'il y avait un français et une façon de parler le français. Et c'est vrai que du coup, l'accent se perd. Je parle l'impression de parler particulièrement comme un mec de banlieue. Alors, mes amis, quand même, trouvent que j'ai un accent de banlieue. Peut-être sur la manière un peu dynamique, voire rentre dedans, à la limite agressif, des fois, on me dit. Mais... J'ose espérer que je suis pas une caricature. Voilà, de la manière où justement les gens caricaturent les mecs de banlieue. Tu te dis ouais, vas-y quoi, hein. Les gars te font remarquer que de la manière dont tu parles, là t'es vraiment un mec de banlieue, ça peut arriver. Après, si quelqu'un que je connais pas me reprend, honnêtement ça va m'énerver. J'accepterai pas qu'un mec me fasse la leçon parce que tout d'un coup j'ai parlé ou que j'ai une pointe d'accent. J'accepte pas ça. Le côté justement péjoratif de l'accent, c'est ça que les gens doivent rayer. Ils doivent arrêter de prendre l'accent des gens pour quelque chose qui pourrait être péjoratif. Et encore une fois, quand ça les arrange. Il y a des gens qui, au contraire, aiment bien, trouvent ça exotique, trouvent ça mignon, trouvent ça charmant, quand ça les arrange. Et quand ça les arrange pas, ils trouvent que ça fait vulgaire. Et puis bah aujourd'hui, on se rend compte que... Il y a pas mal d'expressions, et puis même de cette manière de parler, de cet accent qui est rentré un peu dans le langage courant et qui est plutôt assimilé aujourd'hui au langage des jeunes. Presque tous les jeunes, qu'ils soient de banlieue ou pas, parlent comme ça. Il y a du wesh gros un peu partout, quoi. C'est devenu un truc. C'est un truc de jeune. Si j'avais pas l'âge que j'ai, je pourrais presque être tendance, quoi. Voilà.
Je suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Je m'appelle Suzanne et je suis italienne. J'ai vécu avec l'accent depuis ma naissance parce que, en tant qu'Italienne, j'habitais en Italie et ma mère était américaine. Elle l'est toujours. Et elle a toujours eu un accent. Donc, disons que ma vie est faite d'accent parce que maintenant j'habite en France et moi-même j'ai un accent. Ma mère, donc, ça fait 50 ans qu'elle vit en Italie et malgré cela, elle fait souvent les mêmes erreurs. Par exemple, une chose que ça m'insupportait même quand j'étais petite, elle disait toujours, je vais travailler à la université. À l'université, non, c'est l'université, même en italien, l'università. Et elle avait plein d'erreurs qu'elle répétait tout le temps, qu'elle n'arrivait pas à intégrer, vraiment. Et même ma maîtresse en CP l'a convoquée et lui a carrément demandé de ne pas me parler en italien pour éviter des éventuels dégâts par la suite. Je détestais qu'on se moque de son accent, hein, ma maman, mais moi, profondément, j'en étais fière. Je pouvais pas savoir à l'époque où, quand j'étais petite, pourquoi, mais je pense que cette étrangeté m'a toujours portée, parce que c'est quand même bien d'être différent des autres aussi. Et j'y trouvais aussi beaucoup de courage dans cet accent, parce que quand même, il faut se déplacer, il faut venir dans un autre pays, il faut se faire accepter, on se moque de toi. Et pourtant, on continue à parler. Et ma mère, elle parlait beaucoup en plus, hein. Susie, adesso vai in camera tua e tu metti tutto a posto. J'ai dit, ben maintenant, Susie, tu vas dans ta chambre et tu vas tout ranger. Hein. J'habite en France depuis 1998, précisément l'année où la France, et non pas l'Italie, a gagné la Coupe du Monde. Mais du coup, bah voilà, je suis arrivée et j'avais un accent, évidemment, un très très fort accent, parce que d'ailleurs, j'ai commencé ma vie française à Marseille. Alors j'avais un accent italo-marseillais, encore pire. Mais qu'est-ce que c'était chantant! Parce qu'on te dit toujours, oh, que c'est chantant ton accent, là, là, mais allez, parle encore, dis-moi quelque chose. Oh, que je déteste quand on me dit ça. Dis-moi quelque chose, mais je suis déjà en train de te dire quelque chose. Quelque chose, je voudrais te passer une idée, le concept de ce que je suis en train de te dire, et non pas l'accent. Un jour, dans le cadre de mon travail, je suis allée voir un technicien parce que j'avais besoin d'un bout de bois et il fallait qu'il me le coupe de, voilà, c'était précis, je lui ai dit 20 cm d'un côté, etc. Et puis il m'interrompt et me dit avec un accent comme ça, moi, je vous donne tout ce que vous voulez. Et moi, j'ai un peu rigolé, j'étais un peu embarrassée parce que moi, j'avais vraiment besoin de ce bout de bois. Et donc après, j'attends 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Eh bien, il avait oublié en fait de me ramener le bout de bois. En fait, on a entendu mon accent, mais on n'a pas entendu ma demande. Malgré le temps qui passait, eh ben, j'ai toujours droit au stéréotype de l'italienne. Je me souviens d'une soirée où j'étais dans une réunion de travail. Et je parlais avec une femme qui était très exubérante et à qui j'essayais de faire passer un concept, quelque chose. J'avais une pensée, j'essayais de bien m'exprimer pour qu'elle m'écoute mon propos. Et tout d'un coup, comme ça, pendant que j'étais en train de parler, elle m'interrompt. Et elle commence à crier. Oh, écoutez, quel accent! Oh là là, mes chéris, mais écoutez, là, répète ce que tu viens de me dire. Comment tu l'as dit? Oh, parle, parle, ma chérie, écoutez, c'est adorable. Et c'était assez insupportable. Pourtant, ça fait quand même 20 ans que je suis là, c'est-à-dire, c'est bientôt. Ben oui, c'est la moitié de ma vie. Et surtout, c'est la moitié de ma vie d'adulte. Et je travaille ici, j'ai construit ma vie ici. Du coup, bah, je ne sais pas, je peux dire que je ne suis ni italienne ni française. Je suis un produit entre les deux, mais je ne suis plus l'italienne que j'étais quand je suis partie d'Italie. Et je ne correspond plus à une italienne qui habite en Italie de mon âge. Je ne correspond pas non plus à une française de mon âge en France. Ça fait 20 ans que je suis là et pourtant, mon accent me ramène toujours dehors. C'est-à-dire que j'essaye de m'intégrer, enfin j'essaye, j'y arrive, hein. J'ai un boulot, mes enfants sont ici, j'ai tout construit ici, et pourtant dès que j'ouvre la bouche, eh ben, c'est rebolote, je retourne là-bas. Mais on me ramène à mon étrangeté, à ma bizarrerie. Je ne me mêlerai jamais dans la masse, en fait. Ça me plairait pourtant de ne pas avoir un accent. Pourquoi pas essayer au moins une semaine? Mais ce qui est dramatique, c'est que maintenant, j'ai un accent italien quand je parle français, et quand je vais en Italie, j'ai un accent français. Ça, c'est quelque chose. Hein. C'est quand même étrange de se rendre compte que j'ai vécu avec une mère qui n'était pas du coin, qui avait un accent, jusqu'à ce que je parte de la maison, que je vienne en France et que je reproduise la même situation mais dans un autre pays. Peut-être que mes enfants, ils vont poursuivre la tradition et partir à l'étranger et avoir un accent aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne avec un accent et je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais quel bonheur d'écouter cet accent. Ce n'était pas le mien, ce n'était pas un accent italien. Mais tout de suite, j'étais périclitée dans son pays et je me suis sentie ailleurs par rapport à ma réalité de ce jour-là, de ce moment-là, de cette situation-là. Et je me suis dit, effectivement, moi, je provoque ça à chaque fois que je parle avec des gens qui ne me connaissent pas, par exemple. Il doit y avoir plein de questions comme ça de la part d'un non-accenté quand un accent vient à ses oreilles. Une espèce d'oasis dans un moment précis de sa propre réalité du quotidien. Il y a une phrase de ma mère qui me revient, qu'elle disait souvent quand j'étais encore en Italie. Elle me disait, tu peux faire tous les efforts que tu veux pour t'intégrer, mais quand tu as un accent, tu ne seras jamais du coin. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on te prend, parce que tu as un accent, on te prend pour quelqu'un qui est fragile ou qui a des défaillances, qui manque de quelque chose ou qui est moins. Alors que si on y pense, déjà, par le fait que tu as un accent, ça veut dire que tu parles et la langue dans le pays dans lequel tu es en train de t'exprimer, et en plus la langue, ta langue maternelle. Donc d'avoir deux langues dans sa besace, plus un voyage qui t'a amené dans ce pays, et ce besoin d'intégration qui vient avec, je trouve que c'est pas vraiment une fragilité, mais c'est plutôt une bonne force quand même.
Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea?
C'était Les Pieds sur Terre, quartier d'été, avec Histoire d'accent, un reportage de Lucia Sanchez réalisé par Philippe Baudouin, avec un coup de main de Cécile Lafont, diffusé pour la première fois le 30 mars 2018. Merci à Nathalie, Debra, Karine, Giuliano, Lazare, Viviane, Camille Richir et Sarah Djeriwi.